La Collective.
L'émission du collectif féministe du 8 mars d'Aubenas.
Tous les deuxièmes jeudis du mois, à 18h, sur Fréquence 7.
J'ai tendance à considérer que les femmes les plus marginalisées, à savoir les femmes pauvres, handicapées, les femmes LGBTQIA+, les femmes non blanches, doivent être au centre du féminisme parce que ce sont les torts que leur font les différentes oppressions qui doivent, pour moi, guider notre sensibilité au sort des femmes.
Soulevez-vous, faites ce dont tout le monde a besoin. Vous, vous en avez besoin. Nous, on en a besoin. La génération future qui va arriver en a besoin. Et donc, c'est maintenant.
Qui montre que les femmes ne sont pas condamnées à être les premières victimes, mais qu'elles peuvent être des combattantes de première ligne et qu'elles ont toujours joué un rôle d'avant-poste dans les révolutions sociales.
Salut, ce mois-ci à La Collective, on est avec Vanessa.
Salut Vanessa.
Alizé.
Salut, hello.
Et Clara à la technique. Salut Clara.
Salut.
Et on parle de pornographie. Et au vu de ce que draine comme vue le porno, on ne doute pas qu'on va pulvériser les audiences avec ce sujet racoleur. Et on commence fort avec la très croustillante chronique de Vanessa.
Alors très croustillante, c'est peut-être un peu survendu. Mais bon, ça y est, je me retrouve à faire une chronique sur le porno et en vrai, je flippe grave que ma mère l'écoute. Mais bon, je flippe pas que de ma mère. Je sais pas si vous savez, mais le porno dans le féminisme, c'est un terrain miné. Dans les années 70, aux États-Unis, des féministes s'opposent à la pornographie alors en plein essor. Elles militent pour l'abolition du porno et plus généralement du travail du sexe. Ce sont les féministes abolitionnistes. Mais d'autres féministes réagissent pour revendiquer le sexe comme forme d'émancipation. Parmi elles, nombreuses sont celles qui pratiquent le travail du sexe et refusent d'être considérées comme victimes. Globalement, elles sont d'accord avec les féministes abolitionnistes pour dire que le porno mainstream, c'est une grosse bouse sexiste. Mais elles pensent que la solution, c'est pas de l'interdire, mais c'est plutôt de faire elles-mêmes du bon porno. Ce clivage, il va déchirer le mouvement féministe aux États-Unis. Ce sont les sex wars, les guerres du sexe. Mon féminisme, il s'est plutôt construit du côté des féministes pro-sexe, et j'ai l'impression que c'est plutôt ce féminisme qui a gagné la bataille. Quand j'avais 25 ans, ma série préf, c'était Queer as Folk, un genre de Friends dans le milieu gay de Pittsburgh, où on se retrouve dans les backrooms des clubs plutôt que sur les canapés du café du coin. L'existence de lieux de drague, de partage de sexualité comme les backrooms, ça me rendait hyper jalouse du milieu gay. C'était complètement absent du milieu féministe, du moins en Ardèche, où le milieu féministe d'ailleurs était globalement pas très vaillant. 15 ans plus tard, il y a des soirées sex-positives organisées par des queer féministes jusque dans le Diwa. Soirées où c'est possible de partager du sexe, mais aussi des réflexions sur le consentement, sur les enjeux de domination, sur les pratiques de réduction des risques. Encore mieux que dans Queer as Folk, où faut bien dire que le consentement n'était pas un grand enjeu. Alors voilà, merci les féministes pro-sexe, bouh les féministes abolitionnistes, fin de la chronique. Ouais mais voilà, il y a eu l'affaire French Bukkake qui a réouvert en moi des questions que j'avais un peu poussées sous le tapis pour me concentrer sur la chance que j'avais de vivre une époque où on pouvait aller pécho dans les backrooms du Diwa. L'affaire French Bukkake, je sais pas si vous avez suivi. Ce sont des dizaines de femmes choisies via les réseaux sociaux pour leur vulnérabilité économique par un recruteur qui se faisait passer pour une femme. Il gagnait peu à peu leur amitié et les convainquait de jouer dans des films X, leur promettant de grosses rémunérations. Mais de très nombreuses victimes affirment ensuite avoir été violées devant la caméra pendant le tournage de scènes extrêmement violentes avec des dizaines d'hommes cagoulés. Les vidéos étaient ensuite diffusées sans leur accord sur les plateformes du groupe Jackie et Michel. Cette affaire, elle a éclairé autrement le malaise que j'avais en entrant sur Pornhub, oups, pourvu que ma mère écoute pas, et en voyant défiler les titres des vidéos que je vais pas citer ici, mais qui mixent le racisme et le sexisme le plus crasse. Alors j'ai eu envie de m'intéresser à ce que racontaient les féministes abolitionnistes. Leur leaduse charismatique, c'est Catherine McKinnon. Et Catherine, elle dit dans son livre « Ce ne sont pas que des mots », que le porno a un vrai impact sur la société. Elle part du constat que le porno mainstream érotise la domination et la violence à l'encontre des femmes, et que cette représentation va elle-même engendrer la subordination et la violence contre les femmes. Catherine, elle critique aussi la notion de consentement, très utilisée par les féministes pro-sexe. Elle dit que dans une société inégalitaire, les femmes peuvent accepter certaines choses parce qu'elles ne sont pas en position de refuser pour plein de raisons. Rapport de pouvoir, emprise affective, économique. Elles trouvent que se baser sur le consentement, c'est très libéral. C'est dire « elle a dit oui, donc c'est ok », sans trop s'interroger sur les places sociales, le contexte qui pousse à dire oui. Et moi, je me dis « mais oui, mais bien sûr, mais merci Katharine, c'est exactement ça ». Mais en allant au bout de ce raisonnement, on n'enlèverait pas tout libre arbitre aux personnes dominées ? Par exemple, je sais que les relations de genre sont inégalitaires, mais je peux choisir d'avoir des relations sexuelles hétéro quand même. Même si je sais que je suis dans une position d'inégalité, je suis pas forcément victime, je peux quand même faire des choix. Et puis, je capte aussi que les féministes abolitionnistes, elles se battaient pour l'interdiction de la pornographie et du travail du sexe en général. Elles ont contribué à certaines réglementations qui, au final, ont été très négatives pour les travailleuses du sexe. Par exemple, la loi sur la pénalisation des clients, adoptée en France en 2016, a précarisé grandement les travailleuses du sexe, les forçant à travailler dans des lieux isolés. Bon bah, du coup, je retourne dans le camp des pro-sexes. Et je lis des pornes qui dit « Le porno ne pose au final qu'un seul problème moral, l'agressivité avec laquelle il traite les hardeuses. » Et je dis « Mais oui, mais grave Virginie. » Mais je repense au titre de Pornhub. Je pense à Katharine, qui dit que ce ne sont pas que des mots. Je pense à la culture de viol qu'on dénonce en tant que féministe, et je me demande, est-ce que cette dénonciation doit s'arrêter à la page d'accueil de Pornhub ? Mais alors quoi ? On refuse toute violence dans le porno ? On raye de notre cerveau tout fantasme de soumission ou de domination ? On le rééduque avec notre petite police intérieure ? Ah mais non, mais tout le monde déteste la police intérieure aussi ! Liberté pour les fantasmes ! Ouais, mais quand on laisse nos fantasmes tranquilles dans une société patriarcale et capitaliste, bah, ça donne French Bukkake. Ok, alors, liberté pour les fantasmes dans le porno queer féministe. Ah ouais, mais comment tu sais que c'est du porno queer féministe ? Comment tu sais que le porno mainstream va pas instrumentaliser, s'approprier le label queer féministe ? Puis ça veut dire quoi exactement queer féministe ? Et même si on est sûr de sûr que ce sont des vrais queer féministes à la prod, est-ce que pour autant, c'est open bar pour tous les fantasmes ? On fait quoi avec les fantasmes d'inceste, par exemple ? Ah ouais, là j'avoue, je sais plus. Bon, bah on aura qu'à faire une émission avec un grand A. Les féministes abolitionnistes ont pas tort. Un grand B. Mais les féministes pro-sexe non plus. Et une conclusion, tout le monde a raison, le conflit c'est mal. Non, mais je déconne, on n'est pas au modem ici. Bon, mais voilà, il nous reste 35 minutes d'émission. Autant vous dire qu'il y a peu de chances qu'on donne une réponse claire et précise à toutes ces questions et qu'on vous pondre un plan révolutionnaire pour régler l'ensemble des problèmes que pose le porno. Mais quand même, on va modestement essayer de démêler deux ou trois trucs.
Maintenant que Vanessa vous a exposé notre grand doute intérieur, posons un peu le décor. Le terme porno, il est un peu générique. Et la définition même de la pornographie fait débat. Alors ça vaut le coup de préciser un peu de quoi on parle. Ce dont on va parler, en tout cas pour commencer, c'est de l'industrie pornographique et de son moyen de diffusion principal, les tubes, les plateformes, comme YouPorn ou Pornhub. La grande majorité de la consommation de pornographie passe par ces plateformes. Ça vaut donc le coup de s'y intéresser.
Pornhub et Xvideo sont des plateformes porno qui cumulent à elles deux plus de 5 milliards de visites par mois. Mais qui se cache derrière ces sites ? Du côté de Pornhub, il y a la multinationale canadienne Mindgeek. Du côté de Xvideo, l'entreprise Webgroup, dirigée par un mystérieux français, Stéphane Pacot.
Ça, c'est ce que nous dit Cache Investigation. Alors, sans mener l'enquête, on devine facilement que ces multinationales, elles font pas ça pour l'amour du sport. Alors, comment gagnent-elles de l'argent ? Et beaucoup d'argent. Eh bien, une plateforme de porno mainstream, ça fonctionne, comme n'importe quelle plateforme gratuite sur Internet, par la publicité. Pour attirer les annonceurs, il faut assurer une fréquentation du site toujours plus grande, et pour cela, il faut fidéliser en proposant sans cesse de nouveaux contenus. Diffuser toujours plus des millions de vidéos. L'avènement des plateformes a donc des conséquences directes sur la manière dont sont produits les films que l'on trouve en ligne. Afin de répondre à ce besoin constant de contenu, les plateformes achètent à bas prix des millions et des millions de vidéos. Dans ses réponses à un questionnaire adressé par la délégation sénatoriale qui s'est penchée sur ces questions, le groupe ARES, autrement dit Jackie et Michel, a indiqué que
le groupe ARES ne produit aucun contenu puisqu'il est diffuseur. Aussi, le groupe ne donne aucune consigne aux producteurs co-contractants quant au produit final, si ce n'est le respect de notre contrat et de notre charte. En d'autres termes, le groupe n'interfère jamais dans la réalisation ou le contenu des scènes. Les seules consignes qui sont données aux producteurs sont d'ordre purement technique, luminosité de la scène, son, ambiance conviviale et gimmick de la marque « Merci qui ». Aussi et de manière très concrète, si des problèmes ou des dérives telles que révélées dans la presse apparaissent sur des tournages, il n'y avait aucune remontée d'informations jusqu'au diffuseur, ni de la part du co-contractant producteur, ni de la part des victimes.
Ce qu'on comprend derrière cette réponse de Jackie et Michel, c'est que les diffuseurs se dédouanent totalement de la production, c'est-à-dire des conditions dans lesquelles ces vidéos sont fabriquées, tout en étant clairement les commanditaires. On a affaire ici à un magnifique exemple d'ubérisation. Et qui dit ubérisation dit précarisation. Ce qu'on retrouve majoritairement sur ces plateformes, c'est du porno dit amateur. Mais contrairement à ce que ce nom laisse croire, et comme le raconte Robin D'Angelo qui a mené l'enquête au sein de ce milieu,
on est effectivement très loin des scénarios qui présentent des filles venues réaliser un fantasme. C'est un genre tenu par des professionnels qui s'inscrivent dans un vrai circuit de production et qui sont là pour gagner de l'argent. C'est un détail, mais dans ce milieu, on parle d'ailleurs de pro-am, pour professionnel amateur. Là où ce type de porno se veut amateur, c'est essentiellement dans l'esthétique voyeuriste et exhibitionniste qu'il véhicule. Il est réalisé avec peu de moyens, avec des actrices bien souvent débutantes.
Cette question du pro-am, elle mérite d'être un tout petit peu creusée. Les tournages pseudo-amateurs viennent répondre à un besoin croissant de production, avec des films tournés au rabais, mais aussi à une demande de réalisme. Et ça n'est pas né avec les tubes. Ça pose une question très importante. Qu'est-ce qu'on regarde? Et peut-on regarder de la même manière une femme qui joue celle qui tombe en larmes de plaisir et une actrice filmée alors qu'elle pleure, choquée par ce qu'elle vient de vivre sur son premier tournage? Cette question, elle ne se limite pas au porno. Elle s'applique tout à fait au cinéma d'exploitation classique. On l'a vu récemment avec la Cinémathèque qui voulait projeter « Dernier tango à Paris ». Ce film de Bertolucci, qui date de 72, il comporte une scène de viol tournée entre Marlon Brando et Maria Schneider. Une scène tournée sans le consentement de l'actrice, au nom du réalisme. Donc oui, ça ne concerne pas que le porno, mais à l'inverse, on ne peut pas refuser de se poser ces questions pour le porno. J'ai regardé un film qui nous montre les coulisses des tournages de films d'un réalisateur de films pornographiques. Au début, dans ce film, on voit des acteurs et des actrices qui travaillent, qui s'emmerdent souvent, attendent dans une position très inconfortable, le temps que le réal trouve le bon angle pour filmer. On apprend comment simuler une fellation ou une pénétration à l'écran. Et puis, plus on avance dans le film, plus le trouble grandit. On ne sait plus ce qu'on regarde. Est-ce que c'est la scène d'un film porno ou sa préparation? Est-ce le personnage ou l'actrice elle-même qui pleure? Ce trouble est évidemment voulu par le réalisateur du documentaire. Alors il n'y a pas dans mon souvenir de scène de violence physique manifeste. Par contre, on assiste à maintes reprises à de la déshumanisation et aussi à de la manipulation. Au nom de la recherche du vrai, du réalisme, de cet effet de réel, le réalisateur de films porno kidnappe les émotions réelles des acteurs et actrices afin de les intégrer à son tournage, ne leur laissant pas le temps de digérer ce qu'elles sont en train de vivre. Le personnage principal du film documentaire, c'est le réalisateur de films porno. Et lui, il est consentant. Et d'ailleurs, il a gagné en notoriété suite à la sortie de ce documentaire. Ce qui semble donner raison à Ovidie, tout le monde s'en fout des actrices, personne ne va sortir dans la rue pour les défendre. Ce qui se dessine là, c'est un secteur où conditions de travail et représentation sont intimement liées. Et les tubes ont une influence certaine, à la fois sur les conditions de production des films et sur les représentations. Comme le rappelle Ovidie,
on ne consomme évidemment plus de la même façon, on ne va plus chercher la même chose, on ne va plus chercher un nom, on ne va plus chercher une star du X, on va aller directement dans une catégorie qui va... on va avoir des catégories... Quand on arrive sur les tubes, on va avoir des catégories en termes de particularités physiques. On va avoir les MILF, les teens, etc. Où on va avoir des catégories en termes de pratiques. Donc finalement, il y a quelque chose, une sorte de disparition de l'altérité, par ailleurs, puisque finalement, c'est plus l'individu. Quand on arrive sur ces vidéos-là, souvent le nom de l'actrice, à moins que ce soit une star, le nom d'actrice n'est même plus mentionné, en fait. C'est cette personne-là qui est sur l'écran, c'est juste une blonde, une brune, qui fait une doux pénétration.
Une pratique, quelle que soit l'actrice.
Exactement. Tout le monde, absolument tout le monde en consomme, hommes comme femmes, il y a 30% des spectateurs qui sont en fait des spectatrices. Donc ça concerne tout le monde, toutes les catégories sociales, absolument tout le monde. On ne peut que supposer que ça a un impact, mais au même titre que n'importe quelle image. Je veux dire, on ne peut pas dire que les pubs, les séries, que tout notre environnement culturel imagé ne nous influence, c'est pas le porno. C'est pas aussi, on n'a pas un parapluie magique qui ferait que tout à coup, on ne serait pas influencé par le porno. Le porno, ça nous influence comme le reste. Et à partir du moment où on décode un peu les codes du porno mainstream, je ne parle pas du porno féministe, etc., mais quand on regarde un petit peu comment c'est fichu, c'est un petit peu tout le temps la même chose, c'est un peu tout le temps la même chorégraphie, avec des variantes, est-ce qu'il y a une bite, deux bites, trois bites, quoi. En gros, mais c'est ça, je veux dire, les variantes, c'est ça, mais ça va être tout le temps à peu près dans le même ordre, à peu près toujours les mêmes rapports de domination, quel genre domine lequel, et puis il va y avoir très peu de variations à partir de là. Donc forcément, ça doit nous façonner quelque part, ça doit forcément nous influencer. Mais il n'y a pas deux études qui soient d'accord.
Comment vous voulez qu'on bosse, nous, si les études ne sont pas d'accord entre elles ? Les plateformes de porno mainstream, ce sont des entreprises à but lucratif. Alors il semble un peu illusoire de leur demander d'être à l'avant-garde du renouvellement de nos imaginaires érotiques. Leur intérêt, c'est d'aller à l'efficacité. On ne peut pas non plus leur demander de défendre les conditions de travail des prolétaires qui travaillent pour elles. Mais est-ce qu'on doit uniquement compter sur cette industrie pour s'autoréguler ? Comment ça se passe pour les personnes qui travaillent dans le milieu du porno ? C'est quoi les lois qui encadrent ces productions ? Ça ouvre la question, est-ce que c'est un milieu du travail comme un autre ?
Le milieu de la pornographie étant souvent considéré comme un domaine à part, la réglementation qui l'entoure, qu'elle concerne le contenu des vidéos comme les conditions dans lesquelles elles sont tournées, semble être nébuleuse. Alors que...
Sans peut-être caractériser une complète hypothèse de non-droit, le monde du X semble souffrir d'une baisse de la pression juridique.
Constate Maître Cordelier, avocat au barreau de Paris, dans un entretien donné au Village de la Justice. Dans cet entretien, l'avocat n'hésite pas à évoquer des droits au rabais concernant les travailleuses du sexe. Il rappelle que
« Les normes juridiques existent pour garantir les droits des personnes concernées. Ce sont notamment celles du droit commun en droit pénal, droit du travail, propriété intellectuelle, droit de la santé, etc. »
Autrement dit, les mêmes qui s'appliquent dans tous les autres domaines du travail et de la création. Concrètement, les écarts par rapport aux lois en vigueur concernent surtout des contrats de travail insuffisants, voire inexistants. Ils devraient pourtant clairement mentionner, outre la rémunération, le droit à l'image, la durée d'exploitation de cette image, l'acquisition des droits d'artiste-interprète, etc. Mais ces écarts se retrouvent aussi dans le non-respect des conditions sanitaires de travail, ainsi que dans l'absence de consentement des actrices. Ils doivent normalement le donner pour interpréter telle pratique sexuelle et pas telle autre. Plus grave encore, la pratique de menaces, chantage et autres extorsions sont aussi largement répandues et les plaintes dénonçant les agressions sexuelles allant jusqu'au viol se multiplient. Alors on va pas se mentir, si cette souplesse s'applique dans ce domaine, c'est en partie lié à la stigmatisation et au jugement moral porté sur les travailleuses du milieu du porno. Et la manière dont sont réceptionnées les plaintes des actrices n'aide pas à visibiliser ces écarts vis-à-vis de la loi. Nombreuses sont les actrices qui expliquent que pour nombre de personnes, accepter de tourner un film mimant un acte sexuel revient à être consentante tout le temps, pour n'importe quel acte, y compris parfois hors caméra. Ce qui fait que leurs plaintes sont toujours minimisées, voire non prises en compte. Hormis l'aspect moral, qui fait que le cadre légal n'est pas toujours respecté, le mode de production et la concurrence internationale qui règne dans ce milieu participent à fragiliser ce cadre. En effet, le tournage d'un film doit répondre aux normes locales, donc le droit français ne s'applique pas en cas de tournage à l'étranger. C'est dans le milieu pro-am que l'on trouve le moins d'encadrement.
La principale problématique ici est vraiment celle des productions sauvages, qui se veulent professionnelles mais qui ne respectent aucune règle. Le point de départ du constat est celle d'un milieu qui est mal réglementé, et il faut bien l'admettre, dès lors qu'il ne s'agit pas de pédopornographie, les autorités se désintéressent un peu du sujet, en raison même de son objet.
Rappelle Maître Cordelier. Cette différence dans les contrôles exercés sur les contenus comme sur les conditions de travail est souvent mise en avant comme une injustice et une concurrence déloyale par les productrices dont les films sont distribués hors plateforme. Et toutes les actrices ne sont pas sur un pied d'égalité. On peut facilement s'imaginer que la notoriété et la vulnérabilité des personnes jouent un rôle important dans leur capacité à exiger le respect des règles entourant la profession.
Bon, on peut le dire avec certitude, puisque les témoignages abondent, des acteurs et actrices porno sont maltraités au travail. Et elles peuvent subir des violences psychologiques, physiques, sexuelles. Les plus précaires, les plus vulnérables sont davantage exposés que les autres. Les hommes blancs s'en sortent mieux, comme dans le reste du monde social. Alors qu'est-ce qu'on fait du porno et qu'est-ce qu'on fait de nos désirs ? Parce que s'il faut aussi commencer à se fliquer sur ce qui nous excite, à décortiquer le budget du film pour savoir si les actrices ont bien été payées avant de se masturber, on va où là ? Dorothy Allison, qu'on adore, parle bien de la distance, du décalage qui peut exister entre une posture théorique et nos fantasmes bien réels, lorsqu'elle se retrouve à écrire sur le sexe lors d'un atelier d'écriture.
Je ne pouvais pas écrire ça. J'ai regardé les femmes quitter la salle, riant et plaisantant, courant raconter à des amis ce que Bertha Harris avait osé leur demander comme exercice pour la prochaine fois. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. De la pornographie. Pornographique, je le suis, c'en est. D'où tout cela venait-il ? De la lecture des livres porno de mon beau-père lorsque j'étais adolescente, de m'être branlée aussi immobile et discrètement que possible. Personne ne doit savoir, le sexe est dangereux. Que puis-je dire qui soit un peu dangereux, pas trop dangereux ? Bertha Harris, ma copine et ses convictions rigides. Ma peur. Je me suis assise pour écrire sur la façon dont mon imagination sexuelle avait été formée, d'après les livres porno de mon beau-père, en citant les titres et en faisant des plaisanteries sur le langage utilisé. J'ai recommencé et déchiré ma nouvelle une demi-douzaine de fois. Ce que je voulais faire passer, c'était combien je me sentais en conflit, combien le langage de ces épouvantables livres cochons, sexistes, m'offensait et m'excitait à la fois. Je voulais raconter combien j'étais embrouillée entre le désir en lui-même, les actes qui me semblaient du sexe, ce qui me semblait dangereux, ce qui semblait drôle, humiliant ou profondément, profondément érotique. Chaque tentative butait sur ma peur. Plus facile d'être drôle qu'honnête. Plus simple d'être embrouillé que direct. J'ai écrit et réécrit, terrorisée à l'idée de trahir, recherchant désespérément l'amour des belles femmes. D'accord, des belles femmes qui me liraient. Mais chaque effort était marqué par ma terreur de leur mépris. Au prix d'un énorme effort, j'ai finalement écrit une histoire enjouée et drôle, lyrique et sensuelle. J'ai raconté du sexe tendre, doux, du sexe bonbon, et décrit comment parfois, à l'aimer, ma bouche avait un goût de pomme et de levure. Je l'ai formulé en métaphore océanique, et j'ai même reconnu mon grand besoin de charmer ma lectrice amante. Plus que tout, j'ai parlé un langage de conviction lesbien, différenciant mes désirs des actes grossiers et répugnants des revues pornographiques masculines. Je n'ai pas été masculine, absolument pas masculine. Ce n'est pas une danse avec celle qui dirige et l'autre qui suit, ai-je écrit, mais un accouplement à la manière des dauphins, qui ne font jamais l'amour là où les hommes peuvent les voir. Absolument pas masculine.
I'm not afraid to die.
C'était Too Much Money de Automatic. On parle bien souvent du porno, mais on devrait parler des pornos. Parce que face au porno mainstream, les féministes pro-sexe dont on parlait dans l'intro se sont elles aussi mises à tourner des films, et ce dès les années 70 aux États-Unis. On écoute Virginie Despentes nous en parler dans son film Mutante.
Désormais, le féminisme pro-sexe a traversé l'Atlantique. Ces héritières européennes mixent punk rock, politique des genres et culture transpédéguine pour rendre visibles des pratiques sexuelles dissidentes. Elles refusent que l'État ou l'industrie culturelle décide à leur place ce qui est montrable et ce qui ne l'est pas. La pornographie dominante nous impose des exigences toujours restrictives de ce qu'est un homme et de ce qu'est une femme, de qui fait quoi à qui, sous quel angle et à combien. La représentation pornographique est une guerre. S'en emparer, c'est modifier l'imaginaire, c'est construire des identités de résistance. Que l'image soit expérimentale, comique, énervée ou excitante, une seule consigne: ne laisser intact aucun code normatif.
Ce porno-là, il propose d'autres imaginaires et il s'appuie aussi sur d'autres modèles économiques. Ce sont souvent des actrices qui choisissent de faire leurs propres films, montant leur propre structure de production pour être indépendantes. On peut citer par exemple Émilie Jouvet, Erika Lust, Judy Minx. Ce porno a même des festivals, avec le Porn Festival Film à Berlin ou le Festival du Film de Fès à Paris. Et voilà, il y a un porno mainstream problématique à plein de niveaux, mais il y a une solution à tous ces problèmes, le porno alternatif et féministe. Ouf ! Oui, mais c'est un porno qui coûte plus cher à produire, puisque les travailleuses sont correctement rémunérées. Il est donc moins accessible. Il propose aussi un imaginaire érotique différent de ce que l'on a l'habitude de voir, en ne laissant, comme le dit Virginie Despentes, aucune norme intacte. Mais pour nos cerveaux nourris par un imaginaire hétérosexuel très très normé, ce n'est pas forcément immédiat de trouver de l'excitation devant cet imaginaire-là. Et tout ça, ça fait que ce porno féministe, il reste minoritaire. Mais alors, est-ce qu'il a une chance d'influencer les représentations majoritaires? Et est-ce qu'il résout vraiment tous les problèmes posés par le porno mainstream?
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger.
Ovidie, journaliste et réalisatrice, ancienne actrice et réalisatrice X, exprime elle aussi ses doutes dans son dernier livre « Slut Shaming, faire payer les femmes ». Ovidie, ce fut l'une des figures du féminisme pro-sexe en France. Pourtant, aujourd'hui, sa position est devenue plus critique. Elle écrit:
peut-on réellement tout représenter à l'écran à partir du moment où il s'agit d'un rapport sexuel consenti lors d'un tournage? C'est cette question qui, pour ma part, m'amène aujourd'hui à me détacher de ce mouvement et me pousse à relire cette période de l'histoire. Car le féminisme pro-sexe a longtemps considéré que toute sexualité, même la plus problématique, méritait d'être défendue à partir du moment où elle était consentie. Le problème est qu'en valorisant une liberté sexuelle absolue, on se retrouve à défendre l'indéfendable. Mise en scène de pédocriminalité dans un contexte légal avec des personnes majeures, mise en scène de viol, d'inceste. Et surtout, défendre toute forme de sexualité revient à n'en mettre aucune en question. Or, il me semble capital, surtout pour un mouvement politique, de remettre en question la provenance de nos fantasmes et d'essayer d'en comprendre les mécanismes de domination.
Bon, on vous avait prévenu, c'est une émission où il y aura sûrement plus de doutes et de questions que de réponses. Même si, comme Anne Sylvestre, on aime bien les doutes, on va quand même tenter de passer en revue les solutions concrètes. La première, c'est de s'opposer à toute interdiction de la pornographie et du travail du sexe en général. Dans son livre « Le droit au sexe », Amia Srinivasan nous explique que les tentatives de légiférer contre le porno et contre le travail du sexe en général portent toujours préjudice aux femmes. Elle écrit « Quoi que dise la loi, il y aura du porno qui sera produit, vendu, acheté. Le plus important pour les féministes ne devrait pas être ce que dit la loi au sujet du porno, mais ce qu'elle fait aux femmes, dont c'est le travail ainsi que ce qu'elle fait pour elles. » La loi de pénalisation des clients de la prostitution, citée en intro, en est une bonne illustration. Amya Srinivasan nous explique aussi comment des tentatives de législation ont aussi porté préjudice aux femmes. Elle nous cite l'exemple du gouvernement britannique qui, en 2014, a interdit une liste de pratiques dans les pornos produits en Grande-Bretagne.
Cette liste des pratiques interdites se révèle étrangement disjonctive. Elle inclut des actes sexuels qui impliquent supposément la subordination des femmes, la fessée, la bastonnade, les flagellations virulentes, la torture physique ou verbale, la contrainte physique, l'humiliation, mais qui sont en réalité caractéristiques du porno domina, dans lesquels des femmes soumettent des hommes à de la douleur physique et à de l'humiliation psychologique. Cette liste comprend un acte emblématique du plaisir des femmes, qui ne figure presque jamais dans le porno classique, l'éjaculation féminine. S'y trouve également un acte qui ne semble pas particulièrement problématique, en dehors du fait qu'il représente pour beaucoup de personnes quelque chose de répugnant, l'uro. Y figure aussi la pénétration par tout objet associé à de la violence. Est-ce que le pénis d'un homme, ça compte? On peut supposer que non. La strangulation et le face-sitting, également associés au porno domina, y sont inclus, apparemment parce qu'ils peuvent mettre la vie en danger. Bien que l'on ne sache pas exactement combien d'hommes sont morts après qu'une femme s'est assise sur leur visage.
Ce à quoi ne touche pas cette liste, c'est à la Sainte Trinité, fellation, pénétration, éjaculation.
Ce qui ne figure pas sur cette liste, et qui est donc officiellement autorisé ici, c'est le porno le plus conventionnel, celui qui excite la plupart des gens. Mais le cœur même de la critique féministe du porno était de déstabiliser la logique dominante, de faire comprendre que ce n'est pas parce que quelque chose excite la plupart des gens que c'est forcément acceptable. Interdire uniquement ce qui est marginal dans le sexe, c'est renforcer l'hégémonie de la sexualité conventionnelle, et donc renforcer la misogynie ordinaire.
Mais s'il faut se méfier des tentatives de législation, on fait quoi alors? On accepte que le porno soit une zone de non-droit, hors du monde? Alors pas vraiment. On peut écouter Lisa Del Sierra, actrice, réalisatrice et productrice de films X, qui a travaillé à l'élaboration d'une charte déontologique dans la production de films porno. Elle nous parle de certaines recommandations de la charte.
Pour ce qui est du contrat, du consentement et de ces choses-là, c'était peut-être tardif, mais la charte déontologique s'est emparée du problème, puisque, il faut le savoir, on évolue dans un petit milieu où on se connaît, il y a des familiarités, et régulièrement, on est embauché, entre guillemets, pour un tournage sur la foi d'un SMS. Donc voilà, tu serais dispo tel jour pour telle scène avec tel partenaire, pour tel machin. Oui, super. Et on part en tournage sur la foi d'un SMS. Ça, c'était plus possible. Parce qu'une fois sur place, il a été révélé dernièrement effectivement qu'il y avait des pressions qui s'effectuaient sur des comédiennes et des comédiens pour faire des pratiques non prévues. Il est question dans la charte déontologique, et c'est appliqué déjà aujourd'hui, que le contrat est signé en amont, que les acteurs et les actrices doivent se doter d'une ce qu'on appelle la due dont. C'est une liste de ce que je fais et de ce que je ne fais pas. Cette liste est refaite au moment de la scène, parce qu'on peut avoir envie de faire quelque chose il y a un mois qu'on n'a plus envie de faire ce jour-là, bien évidemment. Il y a un garant du consentement sur le tournage en la personne de la coordinatrice d'intimité, qui est là exclusivement pour s'assurer du consentement et du bien-être des acteurs, des actrices, mais aussi des techniciens et des maquilleurs, des coiffeurs qui des fois n'ont pas la même grille de lecture que nous, qui n'ont pas banalisé certaines choses et qui peuvent se sentir un petit peu mal à l'aise sur un plateau. La coordinatrice ou le coordinateur d'intimité sont là pour ça. C'est nouveau, effectivement. C'est mis en place depuis quelques temps. Moi, depuis le début, sur mes tournages, j'ai appliqué le principe d'une marraine. Je choisissais une actrice plus expérimentée pour être la marraine d'une actrice plus novice. Maintenant, c'est légiféré pour nous. Nous, on l'a intégré à nos contrats. De nombreux distributeurs l'ont intégré à leurs contrats. La présence d'un tiers de confiance sera désormais, sur la plupart des tournages, obligatoire, si on souhaite vendre notre film.
Alors, on comprend l'idée de cette charte, c'est d'apporter des solutions concrètes aux travailleuses du X. Lisa Del Sierra l'a réalisée avec un sociologue et un avocat, à partir d'entretiens avec les personnes qui travaillent dans le secteur. Elle est constituée de 18 propositions.
Pour ce qui est du droit à l'image, j'ai dû signer peut-être 1500 contrats au cours de ma carrière où je donnais mes droits à l'image pour 99 ans, messieurs, dames. C'est-à-dire que même après ma mort, des gens continueront de se masturber sur moi. Ce sont des contrats inacceptables, et ça a été ça pendant des années et des années. Aujourd'hui, et je ne parlerai que de moi sur ce sujet, les contrats, en tout cas de ma production, et ce qui est préconisé par la charte déontologique, ce sont des contrats de 5 ans, à tacite reconduction. Au bout de 5 ans, un acteur ou une actrice, par simple voie recommandée, peut demander le retrait de ces scènes X. Il sera donc coupé au montage, le film sera cessé d'exploiter si besoin. Il s'agit là contrario, on a demandé une augmentation de nos droits VOD, bien sûr, pour pouvoir amortir nos films, parce que sinon, ça ne marchait pas. Mais il y a un droit de retrait stipulé, expliqué dans les contrats, que ce soit un droit de retrait au moment du tournage, ou un droit de retrait après le tournage, ou un droit de retrait après le temps d'exploitation pour lequel on a signé. Ce qui paraissait la moindre des choses.
Alors, l'idée de la charte, elle est bonne, mais il faut encore que la réalité colle à ce qui apparaît sur le papier. Par exemple, les coordinatrices d'intimité sont censées être présentes sur les tournages. Mais faute de budget, ce n'est pas toujours le cas, même pour des productions qui se disent signataires de la charte. Et puis, et surtout, si c'est Lisa Del Sierra qui a travaillé sur la charte, et ben cette charte, elle a été financée par le groupe de production Dorcel. Et bon, ben on peut les soupçonner de le faire plutôt pour On peut les soupçonner de le faire plutôt pour redorer leur image que par réelle passion pour le respect des actrices et du droit du travail.
Mais alors on fait quoi ? C'est quoi notre plan ? Eh ben on fait ce que nous ont appris les féministes, on écoute les premières concernées.
Le X est une industrie, un business, c'est capitaliste. Des problèmes, des dérives et des abus, comme dans tout autre milieu, industrie et secteur de la société ont lieu. Peut-on envisager comme solution de donner aux actrices et plus largement aux travailleurs du secteur des moyens légaux pour exercer dans de meilleures conditions à travers des structures syndicales, des négociations collectives, un encadrement médical et un contrôle sur l'inspection du travail ?
Le syndicalisme nous semble être un outil essentiel pour l'amélioration des conditions de travail dans le milieu porno comme ailleurs d'ailleurs. Mais la position abolitionniste restant majoritaire au sein des syndicats, les travailleuses du sexe peinent à faire émerger des organes de représentativité. Mais il existe le STRAS, le syndicat des travailleuses du sexe, qui se bat contre la criminalisation de ce travail et pour l'application du droit commun aux travailleuses du sexe. Il a pour projet d'établir une convention collective relative au travail pornographique, qui aurait beaucoup plus de poids qu'une charte mise en place suivant le bon vouloir des producteurs.
Bon, finalement, le porno, c'est encore Ovidie qui le dit, c'est un miroir grossissant de notre société. Il ne faut pas le considérer comme un objet à part, mais bien comme le reflet de ce qui se joue socialement. Et tant que le racisme et le sexisme feront partie de nos rapports sociaux, le porno les mettra en scène. Ça ne veut pas dire qu'il faut le tolérer, mais que c'est aussi en luttant ailleurs qu'on peut espérer faire bouger quelques lignes. C'est notre regard et la construction de nos désirs qui sont en jeu. Tout ça n'est pas figé, ça évolue, en fonction de plein de facteurs. Comment se construit notre sexualité ? Est-ce qu'on apprend à identifier les violences ? Est-ce qu'on en subit ? Est-ce qu'on peut en parler ? Et là, si vous êtes attentive, vous avez fait le lien avec l'émission précédente. Et oui, l'EVARS, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, fait pour nous partie des outils qui nous semblent incontournables. Et puis lutter contre les violences au sein de l'industrie pornographique, c'est aussi lutter contre la précarité, qui met des personnes en situation de vulnérabilité. C'est écouter et soutenir les personnes qui dénoncent les violences qu'elles subissent, qu'elles soient travailleuses du sexe ou non. C'est entretenir volontairement sa curiosité pour d'autres corps, d'autres pratiques. Et peut-être, parfois, s'arrêter 2 secondes pour se demander comment sont fabriquées les images que l'on consomme. C'est se rappeler, finalement, que le porno, c'est une industrie et que l'ennemi, c'est le capitalisme.
Avant de se quitter, on sort les agendas pour les prochaines dates importantes. Le 25 avril, c'est la cantine de soutien au planning familial, donc à Aubenas, à la cantine populaire. Le 1er mai, c'est la fête des travailleuses. Il y aura donc manif et rassemblement festif à Aubenas. Et autour du 6 juin, c'est la marche des fiertés. Et on vous dit à début juin pour la prochaine émission.
Salut!
Relief. I don't need the full meal yet, it's just an aperitif. I'ma act on my desires, that is my leitmotif. Porn is never gonna die, and I ain't tryna start no beef, but I swear that a lot of it ain't made for us.
It's hard to look at any of these videos in full consciousness. Creamy pie fish, shall it be golden shower, it's Toys R Us. Some of these actors don't even know which ones are erogenous. When I watch that porn, porn. When I watch that porn.
When I watch it.
When I watch that porn, porn. When I watch that porn.
When I watch it.
When I watch that porn, porn. When I watch that porn.
When I watch it.
When I watch that porn, porn.
C'était La Collective, une émission du collectif féministe du 8 mars d'Aubenas, tous les 2e et 4e jeudis du mois à 18h sur Fréquence 7.
Qui va faire le ménage? Et la réponse des féministes est très bien selon moi, elle dit « mais la révolution fera le ménage ».